Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire du terreur d'élite le plus mortel de l'histoire des États-Unis. Son nom, Chris Kyle. Son surnom, American Sniper. À son compteur, le record américain de victimes abattues au fusil de précision. 160 selon le Pentagone, 255 selon lui-même, tout en Irak, pendant ses missions de guerre entre 2003 et 2009. Si l'on connaît ce triste bilan, c'est que Chris Kyle a raconté son histoire dans un livre. Et que ce livre est devenu un film, American Sniper, réalisé par Clint Eastwood, qui à sa sortie en 2014 a immédiatement surclassé « Il faut sauver le soldat Ryan » dans le hit parade des films de guerre les plus rentables de l'histoire. Chris Kyle est alors devenu pour les uns une légende américaine et pour les autres l'incarnation de l'horreur de la guerre en Irak. Parce qu'il est parti pour tuer, je le cite, des sauvages, qu'il a trouvé ça, je le cite toujours, marrant, et que son unique regret est de ne pas en avoir tué plus. Notre invité aujourd'hui, Fabien Nury donc, scénariste, auteur de bandes dessinées, citons parmi ses œuvres « Il était une fois en France »,« La mort de Staline », la série Tyler Cross bien sûr. Et notre sujet du jour, la bande dessinée intitulée « L'homme qui tua Chris Kyle », une légende américaine parue en 2020 chez Dargaud avec Bruno au dessin. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Romain Weber, coordination Franck Cognard, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Je ne suis plus celui que j'étais avant que je parte à la guerre. Personne ne peut rester le même. Avant de prendre part au combat, vous gardez une part d'innocence en vous. Puis tout à coup, vous découvrez l'autre visage de la vie. Je ne regrette rien. Je le ferai à nouveau s'il fallait recommencer. En même temps, la guerre vous transforme. Vous étreignez la mort. Enfant, je voulais devenir militaire. Je me demandais alors ce que cela pouvait faire de tuer un homme. Maintenant, je le sais. Cela ne fait pas grand-chose.
Août 2009, Sadr City, Irak, banlieue est de Bagdad. Chris Kyle tremble. C'est la fin de son quatrième déploiement, et celui-ci l'a encore moins épargné que les autres. Ses genoux sont abîmés, son dos lui fait mal, ses chevilles, ses mains, sa nuque, ses côtes. Chris Kyle est une boule de douleur. Il est maladivement pâle, complètement exténué, mais à peine ferme-t-il les yeux que se rejouent sous ses paupières des scènes de guerre. Il dit avoir abattu 255 ennemis, mais il dit que ça ne lui fait rien. Il dit plutôt se souvenir de ce jeune marine mort dans ses bras, de son ami Ryan Job, un commando comme lui, affreusement blessé au visage, d'un autre ami, Mark Lee, mort sous ses yeux d'une balle dans la bouche. Kyle est un homme brisé. Alors, l'armée autorise celui que ses camarades appellent The Legend à écourter sa mission. C'est la fin de sa guerre. En cette même année 2009, quelques mois plus tôt, un autre soldat est rentré, lui aussi. Celui-ci s'appelle Eddie Ray Roth. Il a 21 ans, il est arrivé en Irak à 19 ans. Il était affecté à la base militaire de Balad, à 100 km au nord de Bagdad, et il a vu des hommes mourir. Il gardait la prison militaire, veillant conformément aux ordres à ce que la détention des prisonniers soit la plus déplorable possible. En mars 2009, Eddie Ray Roth est lui aussi un soldat anéanti. Et comme Kyle, quelques mois plus tard, il rentre chez lui. Voilà. Ces deux hommes sont victimes du même traumatisme. Celui d'une guerre entamée 6 ans plus tôt et qui s'enfonce dans le chaos. Chris Kyle et Eddie Ray Roth ne se connaissent pas. Ils ne se sont jamais vus. Pourtant, leurs destins sont liés.
Veuillez vous lever. La séance sera présidée par le juge Stanton.
Asseyez-vous. Faites entrer les 18 premiers jurés. Merci de votre présence. Je vais vous poser des questions, puis les avocats en feront de même. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Votre seule obligation est de dire la vérité.
Stephenville, Texas. 6 années ont passé. Nous sommes le 11 février 2015. Il est 9h du matin. C'est l'heure où s'ouvre le procès d'Eddie Ray Roth. Il a changé, Eddie, depuis son départ d'Irak. Avant, c'était un marine élancé, mince, musclé. C'est maintenant un homme empâté, couvert de boutons, le visage bouffi par les médicaments. La sélection des jurés, comme on vient d'entendre, était difficile. L'avocat d'Eddy avait demandé au juge, sans succès, que les jurés répondent à un critère peu commun, qu'ils n'aient pas vu le film de Clint Eastwood intitulé American Sniper, sorti au cinéma juste avant le procès. Or, dans cette petite ville, en ce même 11 février 2015, on joue American Sniper à 15h40, à 19h et à 22h20. Le film raconte l'histoire vraie de Chris Kyle, le sniper le plus efficace de l'armée américaine. Un blockbuster qui commence par cette scène.
Attendez, j'ai une femme et un enfant à 200 mètres qui avancent en direction du convoi. Ses bras ne se balancent pas, elle porte quelque chose. Oui, elle a une grenade RKG russe, elle l'a donnée au gamin. Tu les as en visuel, tu confirmes ?
Négatif, tu connais les procédures, quand tu veux.
Fin mars 2003, dans la région de Nasiriyah, Irak. À travers la lunette de mon fusil de précision, je scrutais la rue de cette petite ville irakienne. À une cinquantaine de mètres de moi, une femme ouvrit la porte d'une maison et sortit dans la rue. La rue était pour ainsi dire déserte. Les habitants étaient restés cloîtrés chez eux. De temps à autre, un curieux soulevait un coin de rideau pour jeter un coup d'œil dans la rue. Tous attendaient. Ils écoutaient le grondement des véhicules de l'unité des Marines qui approchaient. Les soldats américains remontaient la rue en direction du nord afin de libérer le pays de Saddam Hussein. Ma mission consistait à les protéger.
Chris Kyle est couché sur un toit, l'œil droit dans la lunette de son arme, l'œil gauche qui surveille le paysage. La guerre a commencé 3 semaines plus tôt. Les Marines remontent vers Bagdad et entrent dans la ville de Nasiriyah, au sud de la capitale. Kyle est un soldat d'élite de la Navy et il est chargé d'abattre les ennemis sur l'itinéraire des troupes américaines. La ville a été déjà allègrement bombardée et ce qu'il a sous les yeux est un monceau de gravats. Les rares habitants qui sont restés sont tous des ennemis en puissance. Et dans ses lunettes, Kyle aperçoit une femme et son enfant. Devant eux, les Marines avancent lentement. Or, voilà que la femme glisse sa main dans sa tenue et en sort une grenade, qu'elle confie à son fils. Puis, le petit part en courant en direction des soldats américains. Cet enfant est un ennemi. Kyle retient son souffle. Il tire. Une première fois, le garçon s'écroule. Puis une deuxième, sur sa mère cette fois, qui s'est ruée sur la grenade. Kyle vient de faire ses 2 premières victimes. En réalité, cette scène du film de Clint Eastwood n'est pas tout à fait ce que Kyle raconte dans son autobiographie. Lui dit qu'il n'a tué que la mère, et il parle de ce qu'un sniper ressent la première fois qu'il tue.
Il y a une question qu'on me pose souvent. Est-ce que ça vous dérange d'avoir tué autant de gens en Irak ? Je réponds, non. Et je le pense vraiment. La première fois que vous tirez, vous éprouvez une certaine nervosité. Vous vous demandez, est-ce que je peux vraiment tuer ce gars ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire ? Mais après avoir tué votre ennemi, vous comprenez que c'était ce qu'il convenait de faire. Et vous vous dites, super.
Mais qui est-il, ce Chris Kyle ? Il se présente d'abord comme un Texan tout ce qu'il y a de plus caricatural. Un garçon né dans une famille aux valeurs traditionnelles, reposant sur un triptyque simple, Dieu, patrie, famille. Dans cet état sanctuaire du deuxième amendement, celui qui garantit à tous les Américains le droit d'avoir une arme, Kyle grandit entouré de fusils. Son père lui offre son premier à 7 ans. Il devient ensuite un jeune homme bagarreur et fan de rodéo travaillant dans des ranchs. C'est une montagne de muscles, la virilité, le patriotisme et la bigoterie incarnée, un vrai cow-boy du Texas, culture beauf. Il a 25 ans en 1999, quand il s'engage dans la Navy dont il intègre l'élite, un corps qu'on appelle les SEALs, des commandos surentraînés, capables d'opérer sur terre, sur mer et dans les airs. Destruction d'infrastructures, assassinats ciblés, exfiltration. Ils effectuent des missions dites spéciales, dont la plus célèbre, plus tard, sera l'assassinat d'Oussama Ben Laden. 2 ans après l'entrée de Kyle dans l'armée, Le 11 septembre 2001 génère de nouveaux théâtres d'opération pour l'armée américaine et pour ses soldats, qu'une furieuse envie de venger leur pays attaqué rend particulièrement redoutable. Alors, le 20 mars 2003, c'est avec l'objectif de faire payer très cher leurs crimes à ceux qu'ils considèrent comme les ennemis de sa nation que Chris Kyle part pour la nouvelle guerre dans laquelle se lancent les États-Unis, une croisade. Il est 4h du matin quand France 2 diffuse un flash spécial.
Étienne, Georges Bush, je crois, prend la parole. On va écouter le président des États-Unis.
Les forces américaines et les forces de la coalition ont lancé les premières opérations pour désarmer l'Irak et pour libérer les Irakiens. À mes ordres, les forces de coalition ont commencé à frapper des cibles importantes pour réduire la capacité militaire de Saddam Hussein. Il s'agira d'une campagne concentrée et importante. À chacun des hommes et des femmes qui sont à l'heure actuelle sur le terrain, l'espoir d'un peuple opprimé dépend de vous.
Mais comme le dit Chris Kyle lui-même, je n'ai pas risqué ma vie pour apporter la démocratie en Irak. Je n'avais rien à foutre d'eux. Comme ça, c'est clair. Son travail n'a rien de politique. Non, il consiste prosaïquement à sécuriser l'avancée des marines. Et c'est au cours de sa première mission que Kyle fait ses premières victimes. Au même moment, à 12 000 km de là, Eddie Ray Roth a 15 ans. Il vit avec sa famille dans une ville du nom de Midlothian, au Texas, comme Chris Kyle. Eddie, lui, est encore loin de la guerre. Il est lycéen. Il est d'ailleurs, coïncidence, au lycée dans lequel Kyle était élève 10 ans plus tôt. C'est un jeune homme turbulent, Eddie, avec une vie difficile. Il a fugué de chez sa mère. Il s'est réfugié chez sa tante, qui vit dans un squat, où il consomme ce qui lui passe sous la main, alcool, cannabis, tout en s'occupant de son grand-père malade d'un cancer. Contrairement à Kyle, il ne sortira pas du lycée avec son diplôme. Il le quitte en 2004, 2 ans avant la fin. En cette même année 2004, Kyle part pour son deuxième déploiement. Il est envoyé à Fallujah, à une poignée de kilomètres de Bagdad. Une ville occupée par les insurgés qu'il s'agit de reconquérir. Sa mission, c'est de se poster à des endroits stratégiques pour éliminer les rebelles. Et c'est au cours de ce déploiement qu'il commence réellement à faire parler de lui. Chris Kyle, c'est d'abord le sniper à la casquette. Oui, lui ne s'encombre pas d'un casque. C'est que, dit-il, pour être cool, le moyen consiste à avoir l'air cool. Et vous avez l'air beaucoup plus cool avec une casquette de baseball vissée sur le crâne. Et c'est ainsi qu'il enchaîne les victimes. « Je tuais en moyenne 2 ou 3 hommes par jour », écrit-il, « de temps en temps un peu moins, parfois beaucoup plus. » Ces cibles, il les appelle les sauvages ou les salopards. Et son accumulation de tirs létaux lui valent un surnom « The Legend ». Lui aussi, comme son président, affirme qu'il lutte pour le bien et contre le mal, histoire de ne pas encombrer son fusil du moindre problème de conscience.
Un mal implacable, diabolique. Voilà ce que nous combattions en Irak. C'était la raison pour laquelle nombre de personnes, dont moi-même, qualifions l'adversaire de bestial. Il n'y avait vraiment aucun mot pour décrire l'ennemi auquel nous étions opposés. J'aurais juste aimé pouvoir en tuer plus. Non pas pour clamer mes exploits, mais parce que je suis persuadé que le monde se porterait mieux s'il y avait moins de ces salopards qui cherchent à tuer des Américains. Chaque personne que j'ai neutralisée en Irak voulait s'en prendre à des Américains ou à des Irakiens loyaux envers le nouveau gouvernement. En ma qualité de SEAL, j'avais un travail à accomplir. Je tuais l'ennemi.
Janvier 2012, Dallas, Texas. 2 ans et demi que Kyle a quitté la guerre. Son autobiographie, American Sniper, paraît en librairie. Le sniper a maintenant ses bureaux au 14e étage d'une tour au centre-ville. C'est là que siège son entreprise, une agence de sécurité du nom de Kraft International. Et c'est dans la salle de conférence que Kyle reçoit les journalistes. Une salle remplie d'armes automatiques et dans laquelle ils tiennent tous le même discours. Évidemment, on lui pose des questions sur le film en préparation. Parce que les droits de son livre ont été rachetés et que Spielberg doit réaliser le blockbuster à venir. Eh bien, Kyle fait la moue. Je ne veux pas de Matt Damon et de tous ces gauchistes d'Hollywood qui ont passé leur temps à dénigrer le courage de nos soldats en Irak, dit-il. Non, pour jouer son rôle, il aimerait bien Chuck Norris ou Ronald Reagan, s'il n'était pas mort. Puis on lui pose des questions sur son entreprise. Kyle a déjà décroché des contrats pour les JO de Londres et pour des opérations au large de la Somalie. Il a lui-même servi de garde du corps à Sarah Palin, la très conservatrice ancienne gouverneure de l'Alaska. Et il répond inévitablement à une question sur le logo de son entreprise, une tête de mort qui fait référence à un héros de Marvel surnommé The Punisher, la terreur de criminel qui l'assassine sans discernement. Une référence que Kyle avait déjà reprise pendant la guerre. Il en parle sur Fox News le 5 janvier 2012.
En 2006, on a commencé à peindre le Punisher sur nos gilets pare-balles et sur nos casques. C'était pour dire, on est là, déconnez pas avec nous. Maintenant, c'est le logo de mon entreprise. Il a le viseur du sniper dans l'œil droit parce que c'est là que mon pote s'est pris une balle. Et il a vécu pendant 3 ans après, complètement aveugle. Ryan Jobe. Avant ça, après avoir terminé une mission contre les pirates de Somalie, il avait dit « Contrairement à ce que vous dit votre mère, la violence résout les problèmes. »
La violence résout les problèmes. Telle est donc la devise de la Kraft International. Mais revenons quelques années plus tôt. Nous sommes en 2006, année du troisième déploiement de Chris Kyle. Cette fois, il est affecté à Ramadi, toujours à côté de Bagdad. Son unité s'est donc choisi un nouveau symbole, la tête de mort du Punisher que les soldats peignent à la peinture blanche sur leurs camions et sur leurs fusils. 3 ans et demi après le début de la guerre, c'est là, à Ramadi, que Kyle abat sa 100e victime. Ça vaut bien une photo. Eh bien, il en existe une, où il est tout sourire avec son sniper et la douille à la main. Les insurgés l'ont affublé d'un nouveau surnom, Al-Shaitan Ramadi, le diable de Ramadi. Et ils ont mis $80,000 sur sa tête. « Je trouvais que c'était bon signe », écrit Kyle. Il est interviewé à la télé américaine en janvier 2012.
« Et vous aimez ça ? Vous aimez ce boulot ? Dans votre livre, vous dites que votre femme voulait que vous restiez à la maison. Vous avez aimé tuer des gens. Vous le réalisez ?»
C'est pas un problème d'abattre quelqu'un qui veut tuer les vôtres. C'est pas un problème du tout.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez certaines choses que vous avez faites ?
Oui, les personnes que je n'ai pas pu sauver.
En cette année 2006, alors que Kyle atteint de records, le jeune Eddie de son côté a évolué. Après avoir abandonné le lycée, il est entré dans les marines à 18 ans pour la plus grande fierté de ses parents. C'était un adolescent perturbé. Il est devenu un jeune homme musclé, en grande forme, prêt à servir. Il a 19 ans en septembre 2007, quand il est envoyé en Irak. On le stationne sur une base aérienne, à Balad, au nord de Bagdad. De son déploiement, on sait qu'il assiste à des attaques et qu'il voit des hommes mourir. On sait également qu'il est chargé de la surveillance de la prison militaire et qu'il trouve que les conditions imposées aux prisonniers sont cruelles. C'est lui, par exemple, qui donne aux détenus les 3 feuilles de papier toilette quotidienne auxquelles ils ont droit. Mais pour le reste, il traite lui aussi ses ennemis comme des bêtes. Il va même plus loin. Il se fait tatouer sur le bras droit une croix de croisée, de couleur rouge sang, symbole des Templiers, ses moines soldats. « Je voulais, dit-il, que tout le monde sache que j'étais chrétien. Kyle est bel et bien en croisade. Tuer les musulmans est une mission divine. »
Mais je savais également que le christianisme avait évolué depuis le Moyen-Âge. Nous ne tuons plus les gens au motif qu'ils sont d'une religion différente de la nôtre. Ce que nous combattions en Irak, après que l'armée de Saddam s'était enfuie et avait été vaincue, étaient de véritables fanatiques. Ils nous haïssaient parce que nous n'étions pas musulmans. Ils voulaient nous tuer, même si nous avions renversé leur dictateur, tout simplement parce que nous pratiquions une religion différente de la leur. La religion n'est-elle pas censée prêcher la tolérance ?
Comme Kyle, Eddie est donc en croisade. Mais tuer est aussi devenu un jeu pour le sniper. Il faut en abattre le plus possible, le plus loin possible. À l'arme de poing, à la grenade, au lance-roquettes. De toute manière, dit Kyle, il y avait une quantité innombrable d'insurgés. Et c'est au cours de son dernier déploiement en 2008 qu'il abat sa 160e victime homologuée, la dernière de sa triste série. Alors des regrets ? Aucun, au contraire. Ce ne serait pas mentir ni exagérer, dit-il, que de prétendre que c'était marrant. Mais peut-on croire ce qu'écrit cet homme qui refuse d'admettre la moindre faiblesse ? Car cette absence de regret ne coïncide pas avec son état à l'été 2009. Un état physique et mental tellement grave que l'armée le fait rentrer chez lui avant la fin de sa mission. Ce qui est certain, c'est qu'Eddie, lui, n'a pas trouvé la guerre marrante. Son père se souvient en particulier d'un appel. Au bout du fil, son fils pleure. « Papa, lui dit-il, qu'est-ce que ça te ferait si je tuais un enfant ?» Et son père de lui répondre, le suppliant presque, « Rentre à la maison !» Alors, Eddie rentre en mars 2009, un an et demi après être parti en guerre. Il est anéanti. Sa famille note des changements inquiétants dans son comportement. Il boit et fume beaucoup. Il perd du poids, il a des crises de panique et des accès de colère. Du côté de Kyle, ce n'est pas aussi grave, mais la dépression s'installe aussi.
Inter, affaires sensibles.
Même si la vie aurait dû être douce, j'ai eu l'impression de tomber au fond d'un puits sans fond pendant les mois qui suivirent mon départ de l'armée. Je commençais à boire, à enfiler les bières. Je pense que je traversais une dépression, m'apitoyant sur mon sort. Après les bières, je passais aux alcools forts et même dans la journée. Je ne voudrais pas que cela paraisse plus dramatique que ça ne l'était en réalité. D'autres personnes ont dû faire face à des problèmes bien plus graves. Mais quoi qu'il en soit, j'avais pris le mauvais chemin. Je dévalais la pente, et la vitesse ne faisait que s'accroître.
Tu sais, dans notre tête, dit Kyle à un autre vétéran, c'est un putain de labyrinthe. Alors il quitte la Navy et petit à petit se remet en selle. Il monte donc son entreprise, il commence à écrire ses mémoires et il se met à aider les autres vétérans. Pour remonter la pente et pour la faire remonter aux autres, il emmène des anciens de la guerre d'Irak à la chasse, en week-end à la campagne et sur des champs de tir. Histoire d'échanger, de se soutenir dans l'esprit de camaraderie qui leur manque à tous, cette camaraderie militaire. Depuis sa ville natale de Midlothian, en banlieue d'Dallas, où il s'est réinstallé, il a trouvé une nouvelle mission, aider ceux que la guerre a ravagés. Et à Midlothian, pas très loin de chez lui, vit aussi Eddie, qui poursuit sa dégringolade. Lui n'a pas quitté l'armée. Le 12 janvier 2010, il part avec les Marines pour Haïti, touché par un tremblement de terre meurtrier. Là-bas, sa mission consiste à empiler les cadavres avec des pelleteuses et les balancer dans des fosses. « J'ai pas été formé à ramasser des bébés morts sur la plage », dit-il à sa mère en rentrant. Le jeune Eddie, 22 ans, allait déjà très mal. Sa mission en Haïti l'achève. Alors que la trajectoire de Kyle et celle d'Eddie se suivaient, les voilà qui se séparent. C'est même l'ombre et la lumière. En janvier 2012, Kyle publie American Sniper et devient une légende vivante. Au même moment, Eddie est arrêté pour conduite en état d'ivresse et se retrouve 30 jours en prison. Durant les mois qui suivent, Kyle est invité sur toutes les télés et interviewé par la presse du monde entier. Il est l'ange gardien de l'armée américaine, le héros par excellence. Il est reçu par George Bush et Hollywood va faire un film sur lui. Eddie, lui, plonge dans des délires toujours plus inquiétants. Il est persuadé qu'il est habité par un ver solitaire et qu'il est suivi par des monstres mi-hommes, mi-cochons, par Dracula aussi et, pendant que nous y sommes, par des loups-garous qui tous veulent aspirer son âme. Il menace de s'en prendre à sa famille et à lui-même. Il est diagnostiqué schizophrène et fait des séjours à l'hôpital psychiatrique. « Je ne me sens pas bien », dit-il à sa mère. « Je ne suis pas bien ». De son côté, Kyle, sans devenir aussi inquiétant, raconte lui aussi de sombres histoires. Après l'apparition de son livre, il déclare qu'il n'a pas fait de victime qu'en Irak. Non. Il dit avoir été envoyé par le gouvernement à la Nouvelle-Orléans en 2005, après la tempête Katrina, pour abattre les pillards aux snipers, et qu'il a tué deux hommes qui l'avaient agressé dans une station-service au Texas. Impossible de vérifier ces déclarations, qui, tout inquiétantes qu'elles sont, n'entament rien sa réputation dans l'Amérique républicaine. Alors, le jour où Judy Roth, la mère d'Eddie, croise Chris Kyle sur le parking de l'école de Midlothian, elle n'hésite pas. Nous sommes le 25 janvier 2013. Elle a vu Kyle à la télé. Elle sait qu'il est des vétérans. Alors elle le supplie d'aider son fils. Kyle la serre fort dans ses bras. Elle se met à pleurer. « Je vais faire tout ce que je peux », lui promet-il. Elle se souvient, à la télévision, en mars 2015.
Ses séjours à l'hôpital ne lui avaient pas donné l'aide dont il avait besoin. J'avais besoin qu'on aide mon fils. Je n'aurais jamais demandé à Chris Kyle si j'avais eu la moindre idée de ce qui allait se passer.
Eddie est heureux qu'un homme comme Chris Kyle veuille l'aider. Nous sommes maintenant le 2 février 2013 et il a rendez-vous avec lui. Ce matin-là, avant d'aller chercher Eddie, Chris Kyle a assisté au match de foot de son fils. Eddie, lui, a fumé de la marijuana mélangée avec des médicaments et a bu du whisky. La veille au soir, il avait demandé sa petite copine en mariage. Mais au petit matin, il a piqué une crise de colère et il l'a quittée. Ce 2 février 2013, en début d'après-midi, il monte dans la voiture de Kyle. Se trouve également à l'avant un ami du sniper, un homme du nom de Chad Littlefield. Et tous les trois se dirigent vers un champ de tir. Ils y arrivent à 15h15. Une fois sur place, Eddie prend les armes et tire sur Chris Kyle et son ami, les deux s'effondrent. American Sniper est mort. Retour à Stephenville, Texas. 2 années ont passé. Nous sommes le 11 février 2015, il est 9h, c'est l'heure où s'ouvre le procès d'Eddie. CNN couvre l'événement.
Tout comme le blockbuster sur sa vie, le procès du meurtre de Chris Kyle, American Sniper, déplace les foules. La queue pour entrer dans le petit tribunal de Stephenville, Texas, a commencé avant même le lever du soleil. Il n'y a pas de débat. Eddie Rouse a tué Kyle et son meilleur ami, Chad Littlefield. La question est, pourquoi ? Chris Kyle est considéré comme un héros. Une vie tellement remarquable qu'Hollywood en a fait un film, American Sniper, qui fait des records d'entrée et continue d'être joué dans un cinéma situé à 3 miles du tribunal, là où le jury doit décider si l'assassin de Kyle est un méchant ou une victime.
Eddie a immédiatement avoué les meurtres. C'était eux ou lui, a-t-il dit en garde à vue. Parce que il croyait que Kyle et son ami projetaient de l'assassiner et que des gens essayaient d'aspirer son âme. Il dit aussi qu'il avait été déçu que Kyle ne lui serre pas la main et que son autre colonne sentait, je cite, « l'amour et la haine ». Eddie semble avoir tué Kyle et son ami alors qu'il était en plein délire. À son procès, il ne s'agit donc pas de savoir s'il est coupable, mais s'il peut être jugé responsable de ses actes. Un mois et demi avant l'ouverture de débat, le 24 décembre 2014, American Sniper sort en salle. C'est Clint Eastwood, finalement, qui le réalise. La veille du procès, le film à la gloire de Chris Kyle en est déjà à 200 millions de dollars de recettes. Le 2 février, quelques jours avant l'ouverture, c'était les 2 ans de la mort de Kyle. Et pour l'événement, le gouverneur du Texas avait instauré le Chris Kyle Day et sa mémoire a été célébrée dans tout l'État. Le procès s'ouvre donc dans ce battage médiatique. C'est celui, côté républicain, du meurtrier d'une légende américaine, côté démocrate, celui d'un déséquilibré qui a tué un psychopathe. Le 22 février, voilà 11 jours que le procès a commencé. À ce jour-là, l'épouse de Chris Kyle n'est pas là. Elle est à la cérémonie des Oscars. Avec 6 nominations, l'équipe du film espère bien glaner quelques récompenses. Elle en remporte une. 2 jours plus tard, le 24 février 2015, Eddie est condamné. Les 12 jurés considèrent qu'il a simulé sa démence. Le mauvais soldat parachève sa descente aux enfers. Il est condamné à la prison à vie.
Will you join me in prayer? Father, we enter into prayer first by glorifying you and recognizing you as our creator and personal God. Like Chris, who served as a bright and shining example of sacrificial service.
Help us to forgive. À légende, funérailles de légende. Elles ont lieu le 11 février 2013, 9 jours après la mort de Chris Kyle, au Cowboys Stadium, un stade de football américain de la banlieue de Dallas. 7000 personnes y assistent. Les SEALs sont là, les agents de police, les Texas Rangers, les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, de Corée, du Vietnam et de la Première Guerre du Golfe. Sarah Palin également est là. Toute l'engeance réac du Texas s'est donné rendez-vous. Une 10aine de proches se succèdent sur une immense estrade pour rendre hommage à The Legend. Son cercueil au pied de l'estrade est recouvert d'un drapeau américain. Au milieu du terrain, sur une croix chrétienne, on a disposé son casque, ses bottes et son gilet pare-balles avec la tête de mort du Punisher. À l'extérieur, des centaines de motards attendent en rang que le cercueil quitte le stade. Et ils l'accompagnent tout le long des 300 kilomètres qui séparent le Cowboy Stadium du cimetière de l'État du Texas. 300 kilomètres ahurissants. Tout le long du trajet, par dizaines de milliers, des Américains se sont rassemblés, drapeau à la main, pour saluer le convoi du héros national. Héros qui, dans son autobiographie, se demandait comment Dieu, pour qui il était parti en guerre, l'accueillerait à sa mort.
Honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'il m'arrivera le jour du jugement dernier. Mais ce que je tends à croire, c'est que chacun connaît ses fautes, que Dieu les connaît toutes, et qu'on se sent honteux à cette idée. Je crois qu'avoir accepté Jésus comme mon sauveur sera mon pardon. Mais que ce soit au purgatoire ou dans n'importe quel autre endroit que Dieu choisira pour me confronter à mes péchés, je ne crois pas qu'il évoquera aucun tire-l'étau que j'ai accompli au cours de la guerre. Tous ceux que j'ai tués incarnaient le mal. J'avais de bonnes raisons pour chacun de ces tirs. Ils méritaient tous de mourir.
« La raison pour se battre, chantait Bob Dylan sarcastiquement en 1964 pendant une autre guerre. Les paroles disaient « Je ne l'ai jamais vraiment comprise, mais j'ai appris à l'accepter avec fierté, parce qu'on ne compte pas les morts quand Dieu est de votre côté. »
My name, it ain't nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest. I was taught and brought up there, the laws to abide, and that the land that I live in has God on its side. Oh, the history books tell it, they tell it so well. The cavalry's charged, the Indians fell. The cavalry's charged, the Indians died. Oh, the country was young with God on its side. The Spanish American War had its day, and the Civil War too was soon laid away, and the names of the heroes I was made to memorize, with guns in their hands and God on their side.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, American Sniper, dont nous parlons avec notre invité Fabien Nury. Bonjour.
Bonjour.
Scénariste, auteur de bandes dessinées, citons « Il était une fois en France »,« La mort de Staline », la série Tyler Hoss, bien sûr. Et notre sujet du jour, la bande dessinée intitulée « L'homme qui tua Chris Kyle », une légende américaine, parue en 2020 chez Dargo, avec Bruno au dessin. Alors, vous citez en préambule de votre BD une réplique du western « L'homme qui tua Liberty Valance ». On est dans l'Ouest, ici. Quand la légende devient réalité, on imprime la légende. Qu'est-ce qui intéresse le scénariste que vous êtes dans l'affaire Chris Kyle, précisément ?
Le bug de la mythologie héroïque américaine. J'ai envie de dire son autodestruction. Ma théorie est que les mythologies, à force d'être répétées, rancissent. Elles changent de goût, elles changent de sens, puisque les circonstances ne sont pas les mêmes. Et donc le récit héroïque, on va dire celui des années 40, celui qui est anti-nazi, celui de la guerre justifiée, celui de la violence protectrice, n'a rien à voir quand il s'agit d'une guerre d'invasion basée sur un mensonge.
On est loin du jour le plus long, notamment. Hein,
oui,
avec
on est
les héros
loin.
Américains qui arrivent cigare au bec, généraux dans la mer. Bon.
On est très loin de Sergent York, on est loin de Howard Hawks, on est loin de John Ford. Et en fait, la phrase de Ford, qui est une des phrases les plus célèbres du cinéma américain, moi je la trouve magnifique. Mon problème, c'est qu'en 2020, ça, c'est les fake news.
Bien sûr, on va y revenir. La BD, d'abord, la BD longtemps était le support de la fiction. Hein. Elle est de plus en plus le support du réel. Personnellement, j'aime beaucoup voir le réel à travers la BD. C'est une deuxième vie pour la BD, à votre avis, ça ?
Oh, c'est une possibilité ancienne. La bande dessinée a toujours offert des possibilités.
Mais plus aujourd'hui, je trouve.
Mais oui, il y a eu des grands auteurs. Enfin, il y a eu Davodo, il y a eu Guy Delisle, il y a eu beaucoup d'excellents albums qui ont été, je pense, libérateurs et qui ont servi de modèle positif pour tout un tas d'autres albums. Moi, ce que je vois, c'est qu'en bande dessinée, avec le dessin, avec le droit de citation, avec la réinterprétation, on a à la fois le droit à la qualité et à la liberté. Il y a beaucoup de documents dans cette bande dessinée dont je n'aurais pas les droits ou en tout cas pas les moyens d'obtenir les droits si j'essayais d'en faire un projet audiovisuel. Mmh. Avec la qualité et le talent d'un dessinateur comme Bruno, tout est possible.
Qui est le héros de votre bande dessinée au bout du compte ? Chris Kyle ou Eddie Rayroth ?
C'est la légende dont ils sont tous victimes. Il y a Chris, il y a Eddie, il y a Taya, la femme de Chris, il y a Jesse Ventura, il y a tout un tas de personnages absurdes ou tragiques qui sont tous dévorés par cette légende en train de se construire.
Alors, ce personnage de Chris Kyle est certainement plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, c'est vrai qu'il a la panoplie du parfait Texan, God, Country, Family, mais Chris Kyle est-il réellement aussi simple qu'est-ce qu'il paraît être ? Et sinon, qu'est-ce que vous avez décelé ?
Alors, je ne pense pas qu'il soit si simple. J'ai essayé de lutter avec Bruno, on a essayé de lutter contre la tendance à en faire une caricature stupide, le gros réac d'extrême droite, le bourrin fini, fan
de muscu. C'est un peu ce qu'on a fait dans le récit.
Oui, mais ça, c'est parce qu'on manque de temps. On avait plus de temps aussi. Mm. Et en fait, il y croyait vraiment. J'ai aucun doute sur sa sincérité, notamment lorsqu'il essayait de soigner ses copains et camarades de guerre en leur mettant des pétoirs entre les mains, ce qui me paraît totalement absurde. Mm. Moi, ce qui m'a fasciné chez cet homme, c'est qu'il était j'avais l'impression qu'il avait déjà vu le propre film de sa vie et qu'il essayait de se conformer à ce qu'on attendait de lui. Un type qui déclare « Aucun de mes problèmes ne vient des gens que j'ai tués ». Non mais il faut réfléchir à cette phrase quand même. « Aucun de mes problèmes ne vient des gens que j'ai tués ». La quantité de traumatisme que le mec trimballe, il les nie tous en mettant du feu sous ses propres névroses en quelque sorte. Mmh. Et il essaye tant et si bien de se conformer à sa légende de grand tueur que lui, qui a tué 200 personnes, s'invente des victimes imaginaires pour satisfaire son public. Vous imaginez la pression à laquelle ce type est soumis pour essayer de se conformer à cette espèce de d'idéal puéril virilisto-machiste absolument insensé.
Parce qu'il le fait.
Il le fait et il en meurt. Je veux dire, ouais. Il est quand même mort comme un con, tué par un fan.
Ouais.
Eddie Rayroth était un fan absolu de Chris Kyle et il le décrivait, je cite, comme un vrai héros de film d'action. Mmh. Donc on a un problème avec le héros américain contemporain qui a vu tous les films sur les héros américains anciens et qui essaye de ressembler à Gary Cooper. Mais Gary Cooper, il est mort.
Ouais.
The strong silent type. Vous voyez, c'est tout le problème de Tony Soprano, d'ailleurs, qui dit où ont disparu nos pères, où est passé John Wayne. Mais John Wayne, il était alcoolique, enfin. Mmh.
Mais ce drame me rappelle Chapman et John Lennon. Il est complètement fan de lui, jusqu'à le tuer. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait de Chapman ou de Lennon, je ne sais pas.
En western, un exemple très célèbre, c'est Jesse James et le lâche Robert Ford.
Oui.
On a le grand tueur mythique, la figure de l'Ouest, le grand bandit, le redneck, le confederate, etc., qui est assassiné par un des propres membres de sa bande, lequel essaye de s'emparer d'un bout de la légende. Je deviendrai une légende en tuant la légende. Bah, pas du tout. Tu finiras par rejouer ton propre crime sur une scène de théâtre avant de te faire flinguer à ton tour.
Quand il dit par exemple qu'il a abattu au sniper des pillards après la tempête Katrina, peut-on le croire ?
Absolument pas. En fait, Chris Kyle, il a tué dans le 150 personnes en 3 ans de présence en Irak. Ça fait un tué par semaine, dans une zone de guerre. Donc vous imaginez le temps qu'il lui faudrait pour tuer 30 personnes à la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire à peu près 6 mois. Et sinon, vous imaginez l'impact médiatique qu'aurait la présence d'un tueur de masse juché sur le toit du stade municipal en train de flinguer des citoyens américains. Enfin, c'est totalement absurde. Nous, d'ailleurs, j'ai même eu un problème avec la BD, c'est que ça m'a paru tellement con comme anecdote que j'ai pas précisé que c'était évidemment faux. J'ai juste dit, je vous laisse juger de la crédibilité de la chose, et des gens y ont cru. Alors, je vais le dire
ici.
C'est
pour ça que j'y reviens d'ailleurs, je vous pose la question.
C'est évidemment faux, c'est simplement impossible. Et puis les fameux pillards, vous les voyez, vous, à 300 mètres ? Je veux dire, c'est juste des personnes de couleur qui sont en train de chercher de la bouffe. Hein. Mmh. Donc ça, c'est des citoyens américains. Je vous assure qu'il se serait passé 2-3 trucs si ça avait été vraiment arrivé. Mais on voulait acheter la légende. Il fallait nourrir la légende.
On se retrouve dans 3 minutes, évidemment, pour continuer de parler de ces deux hommes. Hein. Parler d'Eddie aussi, après avoir écouté Stéphane Eicher, la plus légère au monde.
Près d'un fleuve, je suis né. Depuis, je flotte avec le flux. Dans cette vie qui veut de moi, peu importe ce que je suis. Et donc, j'existe et je respire. Et je me dis que ce n'est pas un mauvais départ. Puis, j'étais un temps dans le coma. Mais voilà, je me réveille et je vous apporte des fleurs, des chocolats depuis le trou du cul de l'enfer. Je réapprends à marcher, je donne des noms aux choses. J'ai dit mon amour, mes mensonges, mon espoir, mes fautes, ma passion, mon feu, ma colère, mon impatience, mon non et mon peut-être et mon oui inconditionnel. Oh oui, je veux. Oh oui, je veux. Oh oui, je veux. Oui, je veux. Je veux être à nouveau surpris, je veux être étonné comme le premier des hommes. Je veux me retrouver debout avec tes yeux nouveaux au milieu des choses. Et ne plus rien reconnaître, pas à pas à travers les bois et les prairies et dire oui, c'est bon, plutôt pas mal. Pas mal tout ça. Aussi loin que je peux, car chaque chose c'est un cadeau. C'est juste l'emballage qui fait chier. Et on a beau à essayer, on arrive à peine à enlever ce joli papier. Autant je sais maintenant qu'il y a des gens dans ce monde qui le justifient, qui peuvent nous aider à vivre, qui aiment, aiment comme si c'était la chose la plus légère au monde. Je veux être comme eux.
Eh bien, Yuri, on va s'arrêter un peu sur les regrets réels ou supposés, pardon, l'absence de regrets réels ou supposés de Chris Kyle. Il va jusqu'à dire que c'était marrant, bon, c'était son boulot, qu'il regrette rien. Là non plus, c'est peut-être pas aussi simple. Comment vous avez traduit tout cela, vous ?
Évidemment qu'il a eu des problèmes. Il y a ce qu'on appelle le PTSD, donc le syndrome de stress post-traumatique. Mmh. Chris Kyle, il n'a pas été diagnostiqué, mais il avait quand même un certain nombre de stigmates de ça. Je veux dire, on ne sort pas indemne de ce qu'il a vécu. Le fait est que c'est un homme qui a fait preuve d'un grand courage physique et d'une véritable intelligence statique sur le terrain, mais il est rentré d'Irak brisé. Sa dépendance à la violence a été amplement commenté. Sa femme ne voulait pas qu'il y retourne. Il y est retourné 4 fois. C'est même dit à la radio dans l'émission. Vous vouliez y retourner. Vous oui. aimiez tuer ces gens.
Oui, plusieurs déploiements. Oui.
Oui. Et donc le problème, c'est qu'il a ensuite aimé pour avoir tué. Et donc ça devient un puits sans fond. Il faut sans cesse alimenter ce puits sans fond et nier un petit peu comme je dirais que l'Irak, c'est un Vietnam qui veut pas dire son nom. C'est une débâcle,
c'est
un bourbier, une débâcle, un échec caractérisé, mais qui ne veut pas dire son nom. Donc la névrose ne fait que grandir tant qu'elle n'est pas nommée. Et Chris Kyle, à son niveau individuel, à mon avis, incarne ça. Alors, il essaye bien de se requinquer, mais contrairement à ce que ta maman t'a dit, la violence résout bien des problèmes. Ouais, elle a résolu les siens, effectivement.
Alors, dans cette affaire, l'Amérique, au moins en partie, hein, a glorifié Chris Kyle. On a fait donc une légende vivante. Puis après, il est mort, c'est une légende morte. Mais est-ce qu'elle s'est attardée, l'opinion américaine, sur le sort d'Eddie Ray Roth, son assassin ? Parce qu'il y a 2 personnages dans cette histoire. Et d'ailleurs, votre BD porte le titre qui est directement lié à ce jeune garçon. L'homme qui tua Chris Kyle, une légende américaine.
Bah, c'est un miroir déformant. Le surnom de Chris Kyle, c'était The Legend. Mm. Le surnom d'Eddie Ray, c'était Pony Boy. On questionnait même sa sexualité. On lui faisait des vilaines blagues. Il avait jamais tué personne, donc il était pas viril. On n'a pas le droit d'être traumatisé quand on a tué personne, il paraît. Le traumatisme ne compte pas. Porter des bébés morts, ça compte pas.
C'est une faute professionnelle, quoi.
Lui, il avait droit aux autres blagues sur le Texas. Tu sais, tout ce qui sort du Texas, c'est des vaches et des pédés. C'était ça, les blagues qu'on faisait à Pony Boy, parce que Pony Boy pouvait pas se défendre et ainsi de suite. Et donc, véritablement, c'est l'incarnation du raté, de l'échec, de celui qui a voulu être Chris Kyle, mais qui n'est vraiment arrivé à rien, et il ne glane aucune empathie. Ce qui, moi, me fascine, c'est que c'est vraiment la dernière personne au monde à qui vous voulez mettre un flingue chargé entre les mains.
Ouais.
Et il passe à travers toutes les mailles de tous les filets de sécurité, le Veterans Affairs, les diagnostics successifs, les hospitalisations, les arrestations. Il y a au moins 5 ou 6 faits divers avant le double assassinat. Mmh. Et rien. Dans la bagnole, il l'emmène sur un champ de tir. Chris Kyle et son pote s'échangent des SMS. Chris Kyle écrit au volant, ce type est complètement cinglé. Et son pote écrit, il est juste derrière moi, surveille mes 6 heures. Les deux couillons virilistes, ils sont tous les deux armés. Le type derrière parle de cochon mutant qui essaye de dévorer sa mère. Il s'arrête pas, ils disent pas, on va plutôt boire une bière et t'emmener chez le toubib. Non, il l'emmène sur un champ de tir et il lui donne les flingues avec lesquelles il va les tuer. C'est cette absurdité-là, moi, qui m'a le plus fasciné. Comme on est sur un champ de tir, d'ailleurs, il balance 15 valdas dans la poire des deux victimes, et il ne se passe rien. Parce que vous savez, on n'en fait pas la différence, en fait. Et donc, il se casse. Il s'en va du champ de tir, en pleine liberté. Il va chercher son chien. C'est complètement fou, cette histoire. Et c'était cette suite de bugs en forme de boule de neige qui me fascinait profondément. Et alors, évidemment, la mort de Christian, il fait de lui l'espèce de James Dean de la guerre.
Donc, oui, et l'autre, Eddie me rappelle le personnage de Baleine dans Full Metal Jacket, de Kubrick. Hein, un peu.
Oui, c'est Gomer Pyle, oui, c'est
ouais.
Ça.
Ouais. Et tiens, puisqu'on parle de cinéma, American Sniper est donc au cinéma en même temps que se tient le procès d'Eddie. Ce film a forcément une incidence sur la condamnation de cet homme. Quel est votre regard là-dessus ? Sur les télescopages, pour le coup, d'une œuvre artistique qui est directement arrimée au réel. Et en plus, on avait une concomitance avec le procès.
Évidemment. D'abord, le film est un triomphe national. Il marche moins bien dans le reste du monde parce que la guerre d'Irak n'est pas très populaire. Mais c'est un véritable triomphe. Il fédère toute l'Amérique réactionnaire, toute l'Amérique pré-Trump, qui se prépare, en fait, pour cette mythologie-là. Et de toute façon, critiquer le film, c'est critiquer l'Amérique.
Ouais.
Critiquer Chris Kyle, c'est critiquer l'Amérique. Donc là, on est sur une espèce de prise en otage patriotarde. Et moi, ce qui me désole, c'est que Clint Eastwood, que j'admire pour son ambiguïté passée, perd toute ambiguïté, à mon avis, en faisant ce film. Mmh. L'ambiguïté n'est vue que par une poignée de critiques français qui la collent eux-mêmes en arrivant dans la salle. Sinon, elle n'y est pas. C'est une hagiographie de la plus belle eau qui, bon, et elle est un petit peu tragique, mais je vous signale que le film, il était déjà en développement avant la mort de Chris Kyle.
Avant la mort, voilà. Avant le procès.
Et évidemment que le procès est beaucoup plus une émission de télé-réalité qu'un procès. Enfin, on sait très bien que le gars va pas sortir de là, libre. Il n'y a aucune chance.
Alors, le procès est devenu celui d'American Sniper contre une sorte d'anti-American Sniper. Un héros d'un côté, l'anti-héros de l'autre, concernant Eddie ou pas ?
Oui, et puis il y a la veuve éplorée. Et il y a Taya. Taya, c'est la star du procès. Taya, elle est détentrice des droits de Chris Kyle. Elle est devenue une figure médiatique grâce à la mort de son mari, ce que je trouve vraiment proprement magnifique dans son absurdité. C'est une figure de la NRA. La mort de Chris Kyle sert à la promotion des armes à feu. Ouais. Alors, il faut être américain pour comprendre. Et donc, elle devient cette figure de la NRA. La sortie du film permet de faire des pubs pour des flingues et elle finira, elle, par rejouer les scènes de guerre de son mari dans des concours organisés par la NRA avec des flingues ultra-modernes qui tirent dans les coins, qu'il aurait pu tuer encore plus de gens, le Chris, si on lui avait bien voulu lui mettre le fusil de Tracking Point, dont le slogan est « Des armes extrêmes pour un monde extrême ». On croit rêver.
Bon, alors vous êtes parfaitement documenté sur cette histoire, ça s'entend en vous écoutant. Comment vous avez travaillé au niveau de la documentation ? J'imagine comme si vous écriviez un livre classique, soit pas une BD, c'est ça ?
Oui, il y a beaucoup de documents audiovisuels. Alors moi je fais beaucoup d'historique, ce qui est bien c'est qu'il y avait plusieurs années qui s'étaient passées, donc on pouvait avoir un petit peu de distance historique. Il y a 1 million de documents sur cette affaire. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est quand on trouvait des documents rares, les documents sur Eddie Dreyhouse, par exemple, le réquisitoire du procureur ou les dossiers de préparation, le coup de fil à 911 de la sœur de Eddie après le meurtre, parce qu'il est passé la voir après le meurtre en lui disant « j'ai tué Chris Kyle », elle a eu extrêmement peur. On entend ça, la poursuite en voiture, parce que donc il s'était enfui, et donc il est poursuivi en live à la télé. Alors j'ai vu cette poursuite, c'est très très marrant, très choquant comme scène. Et donc, dès qu'on peut trouver tous ces documents rares, quand on fait un docu, il faut pas de scénar. On s'efface derrière les documents qu'on a trouvés et on accepte les impasses quand on n'a pas la doc.
Bien, tout cela est très très clair. Merci infiniment, Fabien.
Merci.
Je renvoie vraiment les auditeurs à la lecture de cette BD. Alors, il y en a pour son argent, si j'ose dire. C'est vraiment comme un livre. Il y a beaucoup à lire et à découvrir. Ça s'appelle L'homme qui tue Chris Kyle, une légende américaine. Merci. Au revoir.
Merci.
cette affaire sensible aujourd'hui. American Sniper, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmas.